Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 19e de notre 9e saison et nous recevons aujourd'hui Nicolas Saint-Decluc. Bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Alors Monsieur Saint-Decluc, vous êtes dans la vie politique, municipale, enfin vous choisirez l'étiquette que vous voulez, depuis je crois une quinzaine d'années.
Oui, déjà. Ouais.
Déjà. Vous avez été d'abord dans l'équipe de Monsieur Bascou, vous avez été adjoint dans cette municipalité. À partir de 2008, donc, pour les auditeurs,
oui,
pour
ça.
Situer un petit peu dans l'histoire. Vous avez été également conseiller départemental socialiste, donc, au dans le département de l'Aude. Et ensuite, alors, lorsque Monsieur Bascou a cédé, si je puis dire, la charge, vous vous êtes présenté, vous avez pris la tête de liste. Aux dernières élections municipales, vous étiez tête de liste pour Narbonne en commun. C'est
oui,
bien comme
c'est
ça que ça s'appelait et que
ça s'appelle toujours
pour l'opposition. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, vous êtes conseiller municipal d'opposition à Narbonne. Et puis, par le jeu de l'intercommunauté, également conseiller alors communautaire, d'opposition également. Donc, on va axer cette émission et ces interviews sur ce côté-là. Alors, l'opposition s'oppose, c'est une lapalissade, mais parfois les auditeurs ne comprennent pas toujours le pourquoi et surtout ce sur quoi on s'appuie pour, de façon judicieuse, s'opposer.
Alors, d'abord, je vais quand même rectifier une chose, c'est que ce que savent pas non plus les auditeurs, c'est que le plus souvent, on vote pour. On s'oppose que sur certains dossiers,
oui,
en fait.
Voilà, il faut le
préciser. Alors, y a l'opposition bête et stupide qui consiste à s'opposer à tout juste par principe. Et c'est pas le choix de Narbonne en commun. C'est-à-dire, nous, on s'oppose à certains dossiers lorsqu'on n'a pas les réponses. Alors, lorsque soit parce que le dossier ne correspond pas à la politique qu'on voudrait mener, soit parce qu'on n'a pas eu les réponses adéquates aux questions que l'on a posées. Hein, si on pose des questions, on répond pas à la question, on se dit, eh ben, il y a forcément un lièvre, et donc on va voter contre, soit on va s'abstenir, parce qu'on n'a pas toutes les informations qui nous ont été délivrées. Donc le but de l'opposition, c'est pas strictement de s'opposer, c'est surtout de s'interroger. De faire apparaître certains dossiers, parce que beaucoup de citoyens, même nous, hein, parfois on découvre les dossiers grâce aux conseils municipaux, c'est-à-dire qu'on est très peu associés en amont. Donc du coup, on pose des questions aussi que les citoyens nous font remonter, et à partir de là, eh bien, on s'oppose ou pas.
Oui, alors la difficulté justement, c'est de s'opposer aussi judicieusement que possible et surtout de le démontrer vis-à-vis alors des auditeurs pour la radio et puis des électeurs, d'autant plus que, et on y reviendra, aujourd'hui il est possible pour les gens qui s'intéressent de suivre en direct ces conseils municipaux ou communautaires.
Oui, mais on a pu remarquer quand même que malgré le fait qu'on ait cette possibilité, peu de gens finalement le font.
Oui,
et c'est regrettable parce que il y a un désintérêt flagrant aujourd'hui pour la politique et pour ce qui se passe dans la cité. Et ça, c'est le reflet d'une société qui va mal.
Oui, mais il faut dire aussi, alors peut-être à la décharge des électeurs, que c'est compliqué, que c'est complexe.
C'est compliqué parce que c'est la manière de présenter les choses aussi qu'il est. Vous voyez, aujourd'hui, les conseils municipaux, on ne présente pas vraiment la délibération. On considère qu'elle a été élue. Donc, parce qu'il y a des commissions, on vous présente juste les délibérations. Et du coup, s'il n'y a pas d'intervention de l'opposition, ben on s'endort. C'est-à-dire qu'il y a une délibération sur tel sujet, c'est bon, quelqu'un est contre pour pas d'intervention, et on passe à autre chose.
Oui.
Et les citoyens ne voient rien, ils voient que ça. Et c'est que lorsqu'il y a une question ou lorsque finalement il va y avoir une interrogation d'un opposant que les citoyens vont être intéressés. Mais c'est des moments, sur 30 délibérations, vous allez peut-être en avoir 4 ou 5 qui vont amener à des questions. Et donc du coup, c'est vrai que c'est très compliqué pour la personne qui est de l'autre côté de son écran et sur une durée de 1h30 ou 2h, il y a, 10 minutes, un quart d'heure d'intéressant, vous comprenez bien que les gens ont peut-être aussi autre chose à faire que de rester. C'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'il faut aussi peut-être faire en sorte de rendre les conseils municipaux plus dynamiques. Et ça demande une autre culture.
Oui, alors il y a ce côté-là, mais ne serait-ce que par exemple sur le plan administratif ou du langage utilisé, je ne parle pas des mécanismes, simplement du langage. On a une foule de sigles aujourd'hui que plus personne ne comprend, qu'on utilise et qu'on balance à la figure de tout le monde, et je pense que ça, c'est très démotivant
alors
aussi.
Je suis d'accord avec vous à 300%. J'ai toujours été contre l'utilisation de sigles. À chaque fois que je prends la parole, je dis le mot en entier.
Voilà, on explique.
Je ne supporte pas ça. Pourquoi ? Parce que moi aussi, dans mon métier, on le fait, et je m'aperçois que les gens finalement ne comprennent pas ces sigles. Et aussi, lorsque j'ai été élu en 2008 en tant qu'adjoint, les agents administratifs parlaient beaucoup en sigles, et je ne comprenais pas. Et beaucoup d'élus ne comprenaient pas, mais ne disaient pas qu'ils comprennent pas.
Oui,
c'est ça aussi le problème.
Oui.
C'est-à-dire que les gens ont dit qu'on considère que tout le monde est au même niveau. C'est pas vrai. Moi, il y a des sigles, je ne les comprends pas. Et quand je les comprends pas, je demande ce que ça veut dire. Et où je suis encore plus étonné, c'est que beaucoup d'agents ou de personnes qui utilisent des sigles ne savent plus ce qu'ils veulent dire.
Oui, alors
À
plus forte raison pour les profanes qui sont pas.
C'est pour ça qu'il faut effectivement avoir un langage clair et dire les choses par leur nom en entier lorsqu'on s'exprime pour la population.
Oui. Donc là, il y a une notion de pédagogie et une volonté de clarté qu'on ne décèle pas du tout aujourd'hui, me semble-t-il.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà. Bon, ça c'est un travail peut-être d'avenir. Enfin, d'abord arriver à en convaincre les coupables, si je puis dire.
C'est ça.
Parce qu'il y a des gens qui, comme vous dites, qui se réfugient volontairement derrière les sigles, ça fait savant, quoi.
Ça fait savant, mais finalement, on perd tout le monde.
Oui,
dès les premières phrases.
On s'aperçoit qu'en grattant, ce sont des savants qui ne savent pas véritablement, quoi.
C'est ça.
Et ça, c'est trompeur. Alors, concrètement, citez-nous quelques exemples, très très concrets, sur lesquels vous vous opposez et vous continuerez peut-être à vous opposer parce que vous avez une vision différente ou parce que la direction prise ne vous convient pas.
On a eu l'ARENA. J'en suis même lassé, vous voyez. J'en suis lassé parce que je vais faire court. L'ARENA, vous savez, je m'étais opposé avec Marc Ortis. On avait à l'époque tout simplement, moi j'avais fait une étude. J'avais donné d'ailleurs à mon père qui était adjoint à la mairie de, qui avait été adjoint à la mairie de Pau, pour savoir et qui avait été beaucoup dans le milieu du spectacle, qui avait géré une association aussi à titre bénévole et notamment il était trésorier, les Amis du Théâtre à Pau. Et je lui avais demandé à peu près quel coût allait nous coûter l'ARENA chaque année en fonctionnement. Et il m'avait dit, il a fait une étude, il m'a dit ça va vous coûter à peu près 1,2 million, 1,3 million. Et lorsqu'on avait ouvert le marché, parce qu'il n'y avait qu'une seule société qui avait répondu à ce marché, nous avons ouvert l'enveloppe, mairie, et demande de subvention d'équilibre de cette société, donc la société Espace, 1,285 000 euros. Après, bien entendu, qu'a fait la municipalité, parce qu'on avait dit que ce qui allait se passer, que ça était beaucoup trop cher comme fonctionnement, il y a eu une négociation, c'est-à-dire qu'il a été décidé de faire en sorte que cette société réduise au maximum le fonctionnement de l'ARENA. Du coup, il y a que 36 ou une quarantaine de dates qui sont possibles en tout. La moitié sont financées par la ville par le biais d'une subvention d'équilibre par rapport à des manifestations aux villes, notamment pour le volet. Et du coup, on a un taux d'occupation de cette salle qui est très très faible. Communication aussi, par exemple, vous aviez 70 000 euros qui étaient prévus de communication dans le budget de la société Espace qui a été aussi enlevé pour faire baisser, bien sûr, la subvention d'équilibre. Et du coup, on a une communication aussi pour les spectacles qui dépend aujourd'hui que de la mairie. Et donc, on avait dit, attention, ça va pas être viable. Il faut que, si on veut vraiment occuper une salle comme ça, etc., il faut un budget, etc., et ça coûte très cher. Et donc, la subvention que vous avez prévue de 650 000 sera insuffisante. Vous savez que dernièrement, nous avons voté pour le volet, parce que ça aussi, je ne le faisais que le dire, la gratuité pour le volet qui n'en est pas vraiment une, puisqu'à chaque fois qu'ils font un match, il faut démonter, remonter, payer les fluides. Il y en avait pour 20 000 euros à peu près. On a dû donc rajouter 126 000 euros. Aujourd'hui, on donne en fonctionnement pour l'ARENA 800 000. Malgré tout, nous avons un taux d'occupation de 1 700 places par spectacle et 1 300 pour le volet. Et vous avez aujourd'hui M. Ribourel qui vous dit qu'il manque 300 000 euros dans les caisses, que c'est compliqué, etc.
Le club des Centurions.
Et c'est pas leur faute, parce qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent, quoi. Seulement, c'est la structure même. Quand on a une structure qui est multimodale, et qui demande des efforts pour passer d'une structure à l'autre, etc., c'est très contraignant. C'est pour ça que nous, on était pour une vision d'avoir une salle pour le sport, dédiée à multisport, et éventuellement une salle de spectacle plus tard, quand la ville aurait les moyens, par rapport aussi à ses autres investissements nécessaires, parce qu'on savait nous aussi qu'il y avait l'Arena, qu'il y avait aussi le Narbovia qui allait arriver, et du coup on a toute une concentration
de bâtiments
publics avec des choses très intéressantes, mais avec des conflits d'usage, des problèmes de parking, problèmes aussi de place de parking, etc. Voilà, donc tout ça effectivement c'est un des dossiers qui nous a beaucoup mobilisé.
Voilà, mais
c'est pas pour s'opposer, c'est pour dire attention, parce que ça peut nous coûter cher, et aujourd'hui on le paye, parce qu'on sait très bien que avec l'augmentation du coût de l'énergie, etc., bon, on a des projets, tous les projets de développement de Narbonne, et notamment ce projet pour des berges de la Robine, qui est remis à beaucoup plus tard, parce qu'effectivement, on n'a plus les financements nécessaires. Lorsqu'on met trop d'argent dans le fonctionnement, c'est de l'argent en moins pour l'investissement pour les Narbonnais, pour l'amélioration de la qualité de vie de leur ville.
Oui,
on a aussi les écoles, on a beaucoup d'écoles à faire, on a beaucoup de gymnases à faire, à refaire pour nos enfants. Et donc, il y a des choix à faire à un moment donné, et il faut faire les bons choix.
Donc voilà. Pour vous, c'était un mauvais choix.
C'était un mauvais choix. Maintenant, il faut que ça fonctionne.
Il faut que ça fonctionne aujourd'hui.
Oui. Et donc, il faut trouver des solutions pour que ça fonctionne.
Voilà. D'autre part, est-ce que cette salle qui est unique dans l'Aude, finalement, dans le département, est-ce que ça n'est pas un prestige pour la ville? Et est-ce qu'un prestige, il ne faut pas, d'une certaine façon, le payer?
Ça le sera peut-être plus tard. Le problème, c'est qu'il faut... Oui, sauf que il faut avoir les moyens de le payer au départ. Puis il est aujourd'hui municipal. Une telle salle aurait dû être communautaire, soyons clairs.
Peut-être que je le serai un jour.
Oui, mais enfin, il va falloir le faire avaler la pilule aux autres maires. Pour l'instant, personne n'a réussi à le faire, hein, malgré personne n'a réussi à le faire. Donc, pourtant, cet équipement, bénéficie à l'ensemble, effectivement, de la communauté du Grand Narbonne et des habitants du Grand Narbonne.
Et même au-delà.
Et au-delà, bien entendu.
D'ailleurs, une ville comme Perpignan avait abandonné un projet plus ou moins semblable, donc n'a pas l'équivalent.
Tout à fait.
De Carcassonne.
Semblable, sauf qu'il était un peu moins cher et surtout moins énergivore aussi, puisqu'il était prévu, je crois qu'il était en structure en colimaçon, avec beaucoup moins de pertes d'énergie. Et moi, ce que j'ai regretté, par exemple, sur cet équipement, c'est qu'on n'a même pas mis d'énergie renouvelable. Pour un équipement qui a coûté dans les 24-27 millions d'euros, il y avait 300 000 euros de panneaux photovoltaïques prévus. On ne l'a pas fait. Oui, c'était dans le dossier.
Ça
n'a pas été fait. Non, mais et après on vous dit il faut faire des photovoltaïques, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je veux bien qu'on ait eu un temps d'avance, mais quand même, c'est vrai que j'étais en plus chargé des énergies renouvelables au niveau du département. Mais voilà, mais je crois que voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut prévoir. On a des équipements, eh bien faisons en sorte de les utiliser au mieux pour l'avenir.
Voilà, on marque, Nicolas Saint-Cluc, une première pause. On va se retrouver pour parler alors d'opposition toujours, c'est naturel, mais peut-être un peu plus du côté du Grand Narbonne.
Très bien, merci.